à tous et bienvenue à ce 13e épisode du podcast à la coupe qui vous est propulsé par le caveau des trois pistoles. Pour votre bière hockey, pensez bien entendu à la bière Le Bon Minou à la coupe. Est-ce que vous avez eu la chance d'avoir dans l'intro ma belle casquette hockey fan 514? Elle est maintenant disponible sur mon eBay d'ailleurs si jamais vous êtes intéressé. Alors bref, je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes puisqu'on est présent sur TikTok ainsi que Facebook, YouTube et Spotify. Cet épisode-là va être disponible d'ailleurs en fin de semaine sur YouTube ainsi que sur Spotify. On n'oublie pas, on écoute à tous les mardis midi la notif des sportifs animée par Loric Salvaille. Cette semaine, Loric nous a jasé un petit peu de quelque chose qu'on va toucher un peu, mais entre autres la situation de Bruce Boudreau, l'arrivée d'un certain Rick Tocchet que... Mon Dieu, j'aurais eu plein de commentaires à donner, mais je n'étais pas là. Alors bref, on n'oublie pas à tous les mardis midi, la notif des sportifs, ainsi que le coin des rumeurs à tous les vendredis animé par Loric Salvaille. Aujourd'hui, on va vous jaser encore un petit peu de Bruce Boudreau, mais avec un angle un peu différent. Et bien entendu, on va parler de la conférence de presse que Gary Bettman a accordée de manière assez impromptue aux journalistes de Montréal, mais il s'est dit, on est dans une ville hockey, c'est une belle rivalité, j'aime ça venir voir ces games-là, let's go, on jase. Et on y va aujourd'hui avec nos collaborateurs. On va commencer bien entendu avec Sam qui est avec nous à toutes les semaines. Mon Sam, comment ça va?
Ça va toi?
Oui, ça va très bien. Mon Sam, on s'en va parler d'un de tes bons amis, Gary Bettman, mais il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose que je crois que tu as sûrement aimé. There's no tanking.
Je l'avais dit. j'ai dit avant lui, tu sais, je savais, moi, là.
En effet, on va en jaser un petit peu de ça, mais aussi aujourd'hui, on a également avec nous notre collaborateur Andy Saussier. Andy, bonsoir.
Hey, salut, les boys, comment ça va?
Ça va très bien, toi? Ça va, toi?
Ben oui, merci.
Alors, Andy, toi, tu as déjà eu la chance de t'entretenir avec Loric sur la notif des sportifs concernant toute la situation qu'il y a eu avec Bruce Boudreau, ça a été mal géré par l'organisation. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Moi, j'aimerais surtout amener ça sur un côté peut-être plus humain. Alors, je comprends que le hockey, c'est quelque chose qui est suivi par des millions de personnes. On veut donner des scoops, on veut amener de la nouvelle, mais c'est jusqu'à quel prix est-ce qu'on peut l'amener? Et là, l'organisation des Canucks a littéralement accusé l'Insiders et Elliot Freeman d'avoir causé cette situation-là. Andy, je veux commencer avec toi. L'organisation accuse Elliot Freeman.
Oui.
Vas-y, t'en penses
quoi? Je pense que c'est deux choses un peu différentes avec ce que les insiders font d'habitude pour cette situation-là. Parce que selon moi, je pense que les Canucks essayent de mettre la faute sur quelqu'un d'autre à place. Tu sais, ils s'enlèvent du poids sur leurs épaules par rapport à la situation. Je pense que ça a été mal géré en général par l'organisation. Je suis pas prêt à dire que c'est de la faute d'Elliot Freeman. Parce qu'il y a quelque chose qui a mal été fait, puis ça aurait dû totalement rester à l'interne, ça, je suis d'accord là-dessus, mais c'est clairement pas juste à cause d'Elliot Freeman.
Puis toi, de ton côté, Sam, je t'ai pas entendu du tout là, sur cette situation-là, fait que vas-y concernant, là, tu sais, ça s'est su publiquement, puis le gars, il est obligé de coacher, à quel point ça détruit les journées du gars, là?
Ben, surtout que les Canucks, c'est quand même ma deuxième équipe préférée, fait que ça me fait chier un peu, je vais dire ça de même. Mais en même temps, je suis pas le plus grand fan de Bruce Boudreau, mais je pense pas que quelqu'un mérite ça dans la vie, même s'il n'a pas toujours été correct envers les joueurs francophones ou les autres joueurs, il s'est traité injustement. Mais je pense pas que quelqu'un mérite. Je trouve que le fait que ça s'est fait, c'est de l'humiliation publique, là. C'est triste. Mais de mettre ça sur la faute d'Elliot Freeman, alors que lui, il a juste rapporté le leak qu'il y a eu, là. Lui, il y a eu une information qui était véridique, parce que c'est vrai ce qui s'est passé. Il y avait eu l'information qu'il allait se faire congédier après le match pour que l'autre entraîneur ait des matchs faciles comme Chicago, Seattle, après ça Columbus. Fait que pour bien paraître le nouveau coach, il allait le mettre dehors après ce game-là. Il a juste dit la vérité, il a juste fait sa job de reporter. Il y a eu un scoop, il l'a dit. En rendu là, si vous voulez pas que ça sorte, dites pas des affaires de même à la porte close, parce que à cette heure, tout peut sortir. Fait que je trouve que les Canucks, la nouvelle direction des Canucks présentement, elle m'impressionne pas du tout. C'est scandale après scandale. Les joueurs veulent même plus rester là. C'est Borvat, on sait qu'il va partir. Le même Elias Pettersson n'a pas l'air de vouloir rester. Fait qu'il y a de quoi, il y a de quoi à l'intérieur de l'organisation qui se passe, puis c'est vraiment pas beau, puis c'est vraiment pas le fun. Parce que tu sais, une équipe canadienne quand même, les Canucks, je pense qu'on aimerait tous les voir avec du succès, puis ils ont une bonne petite équipe pareille, mais en tout cas. Je trouve que c'est plate pour Boudreau, c'est plate pour les Canucks, c'est plate pour les joueurs, c'est plate pour les fans, mais c'est vraiment pas la faute d'Elliot Freeman. Ça, j'embarque pas là-dedans.
Mais là, il y a un point que j'aimerais amener. Lorsque le Canadien a procédé à l'échange de Kirby Dach, Kent Hughes a carrément dit « c'était annoncé, puis je ne le savais même pas ». Donc, des fois, il y a des informations qui fuitent vraiment hors contrôle. Puis pourtant, si je me fie à Chantal Maccabée, il n'était pas juste porte-close. Il était dans, je ne sais plus comment il appelle ça, le QG de guerre. Là,
le War Room.
Ouais, quelque chose dans le même. Mais il était dans une pièce fermée. Comment ça l'a sorti? T'sais? Je veux dire, les DG, ils ne peuvent pas le savoir, non?
Mais il y a quelqu'un qui le dit, mais on ne saura jamais c'est qui.
Ben, c'est sûr, tu sais. En quelque part, les DG, est-ce qu'ils doivent absolument ne jamais mentionner d'avance ce qu'ils vont faire? Puis arriver comme sur un coup de tête rapidement?
Ben, l'affaire, c'est que je pense qu'il y a tellement de monde dans les organisations qui sont au courant de bien des affaires, fait que c'est dur de garder l'information. Mais pour les DG, je sais pas. C'est une bonne question.
Je me dis, comment tu veux qu'ils gèrent ça s'ils peuvent plus parler aux gens qui sont proches d'eux? Là, l'exemple que je connais, c'était Kent Hughes, parce qu'on sait qu'il était dans un espace fermé. Mais tu sais, je veux dire, il sait même pas lui-même de par où ça l'a sorti, puis il avait l'intention de le faire. Je veux dire, à quelque part, il faut que tu saches qu'il y avait.
Peut-être du côté de l'organisation des Blackhawks, que ça.
Ouais, c'est ça. Ça peut être l'autre organisation aussi qui lit. Si c'est une transaction, il y a deux équipes d'impliquées. Mais en même temps, lui, il faut qu'il fasse confiance à son monde, je pense. Puis c'est sûr qu'il y a moins de monde que tu le dis, moins tu as de chances que ça sorte. Mais rendu là, je sais que le Canadien a déjà essayé une couple d'années avec Marc Bergevin, qui lui aimait ça contrôler un peu. Il avait fait sortir des fausses informations, puis il avait dit des fausses informations à plein de personnes différentes. Puis à un moment donné, il y a une information qui est sortie. Fait que là, il a su que c'était lui. Parce que la fausse information, il l'avait donnée à lui. Mais il avait donné de fausses informations à tout le monde. Fait que quand il y a la fausse information sortie, il dit « OK, c'est lui qui sort les informations. » Fait qu'il a comme, je pense qu'il n'a plus rien dit après. C'est quand même wise.
Hey, je savais pas ça.
Mais Marc Bergevin, je pense que c'est control freak un peu. Hein, fait que, il aimait ça.
Mais c'est une bonne manière de savoir.
Bonne manière parce que lui, il avait écrit sûrement le nom de la personne avec toutes les informations. Puis il a dit « Je vais voir l'information qui sort, je vais savoir c'est qui. »
Aïe, j'étais un peu sur le cul, là.
Mais il me semble, je suis sûr d'avoir entendu ça. Fait que peut-être qu'il l'a pas fait à tout le monde, peut-être qu'il l'a juste fait aux personnes qui doutaient, mais ça reste que je sais qu'il est arrivé une affaire de même avec Marc Bergevin, ça fait longtemps. Là.
Ben, je sais en tout cas que Marc Bergevin ne voulait pas que les informations sortent, puis je sais que oui, il s'arrangeait pour que ce soit le cas, mais je savais pas concrètement qu'il avait déjà fait un espèce de stratagème comme ça. C'est assez cool quand même, je vais y donner. est-ce qu'on doit retourner avec une espèce de mentalité à la Bob Gainey, puis que là, le DG et son président sont les deux seuls à être au courant de tout, puis qu'on ne travaille plus en équipe? Je vais y aller avec Andy, ce coup-là.
Oui, ben je pense pas parce qu'à ce temps, il y a trop de monde qui sont impliqués pour les transactions. Tu sais, t'as tes scouts LNH, t'as tes conseillers de transactions, là, je sais pas c'est quoi les noms de tout ça, là, ton assistant DG peut-être.
Dépisteur,
oui, c'est ça. T'as beaucoup de gens impliqués pour une seule transaction. Fait que je pense que c'est impossible de confirmer une transaction, de dire OK, on va de l'avant avec juste deux personnes. En tout cas, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, Sam, là, mais...
Ben, je suis pas d'accord que ça faut que ça se vienne comme Bob Gainey, parce que je trouve que si ça fait ça, ça va être... il va avoir la transparence, va être moindre aussi. Puis on veut que... si on veut que les équipes, pas juste les Canadiens, toutes les équipes aient de la transparence, puis... Fait que si c'est juste deux personnes, c'est sûr qu'il va en avoir moins. Puis, je veux dire, je pense que faut juste... Si tu veux pas que ça... S'il y a des affaires comme l'événement Bruce Boudreau, c'est une affaire qui... Moi, je pense que c'est complètement innocent. Là. Fait que si tu penses que tu fais des affaires qui vont être peut-être toucher plus le public, ben dis-le à moins de personnes possible pour pas que ça sorte. Là, tu peux garder ça entre le président et le DG, les décisions de même. Mais, tu sais, mettons une transaction, c'est pas grave si ça leak, c'est pas dramatique. Mais l'affaire de Bruce Boudreau, c'est parce qu'il y a un humain en arrière de ça. Le gars, il y a une famille, puis, tu sais, Bruce, there it is, là, c'était le fun. Là. Moi, je trouvais ça drôle. Là. Quand il criait ça, le monde, pendant quand ça allait bien. Mais là, tu sais, quand ils l'ont fait, pour la dernière fois, là, le gars, il a mon yeux, puis il sait que ça va être la fin. Mais après ça, des canards qui sont non, mais finalement, ils le font pareil.
Ouais. Mais ça, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que les fans l'ont plus fait dans le but de soutenir et non dans le but de narguer. Là.
Oui, quand il est arrivé à Vancouver, première game, Bruce, David, avec la toune, je ne sais pas si c'est cette toune-là, mais en tout cas, ils ont changé, c'est ça. Puis là, quand les Canucks scoraient au début, genre je pense les 20 premiers matchs, ils criaient ça. Puis là, dans la game, ben, genre, à la fin de la game, ils l'ont chanté. Genre, c'était clairement pour c'est de l'amour qu'ils donnaient. Ouais. Mais ça reste que je trouve ça cheap. Vraiment cheap.
Parce que là, tu sais, ça devient un peu compliqué. Là. Moi, je vais prendre l'exemple ici. Probablement là, que s'il y a eu un leak, ça part peut-être de Rick Tocchet, là, de son côté à lui. Ils ont fait des entrevues avant, là, je crée bien, là, ils l'ont vu quelque part.
Probablement.
Ils ont dû l'inviter à Vancouver, tu sais, probablement. Qu'il a peut-être même été vu dans un restaurant ou quelque chose de même. Puis là, mané, ça devient fucking chiant à gérer toute cette affaire-là. Moi, selon moi, l'organisation aurait dû tout simplement renvoyer Bruce Boudreau tout de suite, puis au pire, voilà, mettre un intérimaire le temps que l'autre aille. Je pense que ça aurait
exactement. C'est vrai, ça, je voulais dire. C'est correct, si ça arrive de Rick Tocchet, ça se peut. Mais congédie ton coach, mets un coach intérim, dis que tu vas faire des recherches, puis une semaine après ou deux, tu mets Rick Tocchet. Parce que je pense que le move est bon, parce que Bruce Boudreau, je pense que c'est plus arriéré comme mentalité de hockey. Puis Rick Tocchet, je trouve que j'ai l'impression que ça va être un bon coach. Avec Sergei Gonchar puis Adam Foot comme assistant, moi, je pense que Gonchar peut apporter beaucoup à un avantage numérique, par contre. Puis Adam Foot peut le jeu défensif. Fait que je pense que le nouveau. Je pense que c'est une bonne décision de changer de coach, mais c'est de la manière que ça a été fait que c'est pas correct. Puis c'est comme Yves a dit, tu congédies-le, puis après ça, je comprends pas. Je sais pas quoi ils ont pensé dans leur tête. Il y a quelqu'un qui a trouvé que c'est une bonne idée.
Exact. Puis le point que moi je trouve vraiment, c'est l'équipe va pas bien. Anyway, c'est quand même bien que tu échapperais deux matchs parce que tu as un coach intérimaire.
Exactement.
Ça changera sweet fuck all. J'aimerais ça aussi entendre Andy sur un aspect peut-être plus général. Là, on va pas toucher juste à Elliott Freeman, mais justement les insiders. Les insiders vont des fois leak des informations. Moi, j'ai la théorie du complot que des fois les équipes font à la Marc Bergevin. Là, ils leak des fausses informations pour voir s'ils peuvent pas avoir un deal ou bien une signature d'un joueur autonome. Là. Est-ce que c'est intéressant pour la Ligue d'avoir des insiders qui vont peut-être dire d'avance les moves des équipes? Ou est-ce que ça peut amener de la pression sur un joueur, de la pression sur un entraîneur inutile?
Moi, je pense que les insiders, c'est insiders pour les fans et non pour la Ligue. Parce que, tu sais, en tout cas, c'est mon point de vue. Là. Je pense pas que les insiders font ça en pensant que hey, ça va aider d'autres équipes. Non, c'est vraiment des ligues pour partager l'information au grand public. Au contraire, je pense vraiment, ben, je dirais pas que ça nuit à la Ligue nationale, mais comme c'est pas pour eux autres qui font ça. Je pense que ce que j'aime moins maintenant avec les ligues qui sont, on dirait, beaucoup plus d'avance et beaucoup plus précis, c'est que c'est on sait tout d'avance, puis ça enlève l'effet de surprise. Moi, c'est ça que j'aime, c'est l'effet de surprise. Puis là, il est enlevé avec les ligues. C'est comme, ah ben là, des fois, on le sait comme une semaine d'avance. Hey là, watchez bien, là, tel gars va. Il est sur le point de partir, là. Puis finalement, 3-4 jours après, il est parti. Fait que c'est ça. C'est pour les fans. Je suis convaincu.
Moi, j'aimerais ça juste te relancer un peu. Là, c'est tout l'épisode de Pierre-Luc Dubourg. Ça doit faire un an qu'il vient à Montréal.
Plus que ça.
Puis moi, je suis en train de me dire que. Son agent, il utilise littéralement les insiders pour faire de la pression pour qu'ils viennent à Montréal parce que c'est partout. Puis là, récemment, on entend que ça y prendrait plus qu'une Coupe Stanley avec les Jets pour pas venir à Montréal. C'est même pas pour changer d'équipe, c'est à Montréal. Moi, je me dis des fois, les insiders, peut-être que les équipes ou les agents les utilisent. Mais en tout cas, c'est pas juste moi dans ma tête. Là.
Le meilleur exemple avec Pierre-Luc Dubois à Columbus, quand ça allait mal, deux semaines avant, tout le monde en parlait aussi. Là. Ah, il va se faire échanger, il veut partir, Tortorella ne l'aime pas. Puis finalement, Pierre-Luc Dubois et Tortorella n'ont jamais dit, ils ont dit qu'il n'y avait jamais rien eu entre eux autres, que genre c'était avec l'organisation en tout cas. Fait que les insiders, c'est un couteau à double tranchant, je dirais, parce qu'on est content de les avoir à date limite de transaction quand ils sortent de transaction sur Twitter avant tout le monde. Tout le monde partage, puis tout le monde apprend de ça. Sauf que quand ça arrive les repêchages d'expansion ou les signatures d'agents libres, là, c'est sûr que c'est plate parce qu'on le sait d'avance. Mais c'est parce que là, faut prendre le... Tu sais, c'est que des fois, c'est pas tout le temps le fun. Tu sais, faut accepter le fait que, oui, le 1er juillet, on va savoir d'avance, mais à date limite de transaction, c'est eux qui vont nous faire le show ou qui vont... On va être sur nos selles sur Twitter en train de refresh, puis « Ah, il y a des rumeurs qui s'en vont là. Ah, » Tu sais, on aime ça, le savoir sur Twitter en premier. Mais c'est sûr que pendant que des agents libres et des repêcheurs d'expansion, on sait d'avance, ça vient casser le fun, mais sauf que des fois qu'on est content de le savoir. Ben je pense que c'est un mal pour un bien, genre.
Comme le repêchage amateur aussi, là. Tu sais, des fois, on sait que ça leak un joueur deux.
Mais ça va leaker genre une minute avant, je pense. Ouais. Moi, je regarde juste pas mon sel pendant le repêchage. Je regarde le repêchage, puis j'enlève les notifications, fait comme ça. Je sais pas, j'ai une surprise pareille.
C'est toi qui nous avais appris la transaction Romanov puis Kirby Doc.
Ouais.
On était en live, puis c'est toi qui l'écoutais sur ta télé.
Oui, c'est exactement
c'est pas,
ça.
C'est pas un insider, mais je comprends ton point.
Ben, on n'était pas sur nos selles, fait que, puis il n'y a personne qui l'avait écrit dans le chat. Fait que techniquement, on le savait. Fait que là, j'avais comme enlevé mon écouteur puis j'avais écouté. Mais je pense qu'au draft, les transactions, ils sont pas mal en même temps que les insiders parce que ça se fait quand même officiellement. Mais,
moi, je me souviens que j'avais triché parce que j'avais Renaud Lavoie qui avait tweeté que Romanov était échangé. J'étais comme « Romanov est échangé! » Puis là, finalement, c'est toi qui avais eu la
peine. Mais tu sais, comme Andy dit tantôt, par exemple, il dit, tu sais, des fois, des rumeurs sur un joueur, oui. Mm-hmm. Puis le gars se fait changer, mais on sait pas où. Puis c'est là que là, les pourparlers changent. Parce que là, tu dis, tu sais, Boervat, là, il y a plein d'équipes là, qui sont liées à lui. Comme Chychrun. Comme Chychrun, il n'est pas encore échangé. Là. Tout le monde dit qu'il va partir. Il fait 6 mois, il fait 1 an. T'es encore là. Ça fait partir. Je pense que ça fait travailler du monde aussi. Là. Ça fait travailler des offres de transactions. Ouais. Faites-en pas des offres de transactions. C'est dangereux.
Puis là, tu me permets, toi, d'ouvrir, parce que veux pas, les insiders, c'est à la fois un show à la date limite des transactions, mais c'est aussi des cris d'amour quand on est arrivé avec le repêchage d'expansion de Seattle, où c'était ridicule. Ouais. On connaissait tous les choix avant qu'ils soient faits. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'il faut qu'il y ait un espèce de code d'éthique sur les insiders? Il y a des éléments tu peux, des éléments tu peux pas, puis là, tu parles pas, puis on s'en va où, là?
Je pense pas que ça peut arriver.
Alors, c'est quand que ça arrive pas.
Parce que, anyway... Un insider, là, comme mettons Elliott Freeman ou Frank Cervalli, qui sont quand même pas mal les meilleurs, je veux dire, c'est leur job. Ils ne font que leur travail. Ouais. Ils font leur job à perfection parce que c'est sûr que eux autres, là, ils ont une information, ils la partagent. C'est ça leur job. Fait que c'est ça qu'ils font. Le Frank Cervalli qui, mettons, il avait les choix de Seattle, il ne les partage pas. Je pense qu'il travaille pour Daily Faceoff ou quelque chose du genre, lui. Fait que, tu sais. Daily Faceoff, c'est pas si gros que ça non plus. Fait que lui, il veut que son produit et son boss aussi, il aime ça, là, qu'il leak. Fait que je pense que c'est. Faut vivre avec. Faut vivre avec que des fois, on est déçu de ça, mais on est bien content de les avoir quand c'est à date limite de transaction et qu'ils nous apprennent que des rumeurs ou que des joueurs qui se font échanger.
Puis toi, de ton côté, Andy, là, on parle ici littéralement. Là, ils font le show, ils tuent l'amour. C'est le démon et l'ange à la fois.
C'est vrai.
Les insiders, est-ce qu'ils contribuent plus au show de la LNH ou ils scrapent plus le show de la LNH?
Bien, comme Sam disait tantôt, ça dépend des occasions, mais le repêchage d'expansion de Seattle, j'ai trouvé ça plat. J'ai quand même écouté l'émission, mais comme je savais c'est qui allait être repêché. C'est plat. C'est vraiment, vraiment plate. J'ai vraiment haï cette fois-là. Oh, c'est bon.
Le cordon est vivant.
Non, non, j'étais vraiment fâché, là. C'est ça.
Coupe le cordon, Andy.
je pense vraiment qu'il y a des occasions. Peut-être que là, il aurait pu leaker dans la journée ou comme, tu sais, vraiment une heure avant. Ou... Ouais. Non, je pense que c'est ça qui a été fait. Mais tu sais, quelques minutes avant le choix. Mais tu sais, pas des heures et même des journées avant, on savait qu'est-ce qui allait se passer. Je pense que ça dépend des occasions. Comme que Sam dit, des fois, c'est tellement rapide, comme le repêchage amateur, que là, ils n'ont pas le temps de leaker. Mais je pense que si on devrait mettre si ça nuit ou ça fait du bien au show, je pense qu'on serait un peu plus que ça nuit, mettons.
Ah, mais c'est parce que Seattle, ce qui est arrivé, c'est que moi, je me rappelle, je jouais au golf ce jour-là, puis bon, j'avais su Columbus, genre, il était genre midi, le repêchage était comme à 8h. Tu sais, 8h d'avance, là, ça scrape le show solide. Il n'y a aucune surprise. Vegas, on avait entendu des affaires, mais Vegas, c'était pas sûr. Là. On savait pas qu'il y avait des transactions aussi, Vegas. Oui. Qu'on savait pas. Tandis que là, on disait on va avoir des transactions au moins. Il n'y a rien eu. Fait que c'était vraiment un shit show. Mais je pense que Seattle, c'était vraiment trop. C'était trop. Ouais. Mais en même temps, moi, quand je me mets à la place d'un insider, je fais que c'est son travail. Puis si on était insiders, on ferait pareil. Ouais. Parce que lui, il a travaillé fort pour avoir ces informations-là pareil. Tu sais, c'est du travail. Lui. Quand tu penses à ça, nous autres, on dit, il fait chier, mais Chris, lui, il a fait des téléphones.
Ouais, lui, là, ça n'a pas arrêté. Il a tout sorti. Lui, là, après que ça a été fait de se laver les mains, là, il a dit, il n'y a plus rien à dire. Là.
C'est couché.
OK. Ben, à partir du moment où un journaliste obtient une information, il doit toujours se poser la question, est-ce que ça va avoir un impact bon ou mauvais? Puis, selon moi, il ne doit pas juste penser à sa carrière, mais je pense que Freeman a fait le saut à voir l'attitude des Canucks. Il ne devait pas s'attendre à ça, pas en tout. Fait que, bref, moi, je ne l'accuse pas de rien. Je me dis, d'après moi, il s'attendait à ce qu'il soit renvoyé avant, puis ça n'a pas été le cas. Bref, Maintenant, on avait une grande visite au Centre Bell cette semaine. C'était nul autre que le commissaire de la LNH, Gary Bettman, qui s'est dit... qui s'est dit, ben, il aime ça faire des voyages de hockey, venir à Montréal, c'est tout le temps le fun, la passion est là, en plus une belle rivalité avec les Bruins. Je fais une conférence de presse pour les journalistes québécois. Mon constat général, c'est que c'était très québécois, les questions qui ont été posées. C'est toutes des affaires que je vois passer sur les réseaux sociaux en français, donc on revenait tout le temps aux mêmes affaires, donc un équipe à Québec, le fait que les Coyotes n'ont pas assez de monde dans leur environnement, puis ils font passer le cash, puis bon. Il y a certains sujets que j'aimerais parler un petit peu avec vous. On va commencer par le premier, Logan Mailloux. Pour l'instant, ce qu'on mentionne du côté de Logan Mailloux, Gary Bettman, il dit « Le Canadien m'a rien demandé encore, donc j'ai pas commencé les investigations. Quand les Canadiens vont décider qu'il l'amène au niveau LNH, ça va être du cas par cas. » Est-ce que, mettons qu'on commence avec toi, Andy, est-ce que tu es confiant que, un, le Canadien va faire une demande dès cette année? Puis si oui, est-ce qu'on est dans le bon sens?
Oui. Ça, tu vois que je ne suis pas convaincu. Mais, tu sais, je pense que des erreurs de jeunesse, il y en a beaucoup qui en font. Logan Mailloux, c'était vraiment, mais vraiment pas correct. Il y a eu Chantal Maccabée qui a sorti publiquement pour dire que ce qu'il a fait, ça n'avait pas de bon sens. Déjà, en partant, que Montréal le repêche, ça n'avait pas lieu d'être. Fait que maintenant qu'il est repêché, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, je pense que là, le Canadien l'aide, il suit des programmes, je pense que ça s'en va dans la bonne direction, mais si le Canadien, ils n'en ont pas encore parlé à Gary Bettman, je pense que ça veut dire qu'ils ne savent pas eux autres non plus s'ils vont le signer ou pas. Fait que, moi, c'est ça que je pense, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais... Je ne suis pas sûr qu'il va jouer à Montréal, là, Logan Mailloux.
OK. De ton côté, Sam, ben, je pense qu'il a été très clair, là, Gary Bettman, il a mentionné qu'on n'a pas encore eu de demande pour Logan Mailloux. On a déjà agi dans le cas de Miller, là, je ne me souviens plus de son prénom à lui. Là.
Mitchell
Miller. Mitchell Miller, puis ils ont décidé qu'il est barré à jamais. Fait, dans le cas de Logan Mailloux, on est confiant qu'il a suivi une thérapie, puis tout, probablement qu'il va être accepté. Là.
Ben, moi, je faisais partie des personnes, justement, qui acceptaient de repêcher, j'étais pas d'accord. Mais là, on est rendu 2 ans plus tard.
Ouais.
Là, les informations que, on n'a pas les informations, dans le fond. Est-ce que le gars a voulu s'aider? Est-ce qu'il a participé au programme? Si oui, je verrais pas pourquoi il aurait pas droit à sa deuxième chance. On dit qu'on est une société qu'on peut se, être dans ce, on peut pas se réincarner, mais en tout cas, t'sais, tu sors de prison, tu peux revenir, tu peux avoir comme une deuxième chance. Ben, lui aussi, il a le droit à sa deuxième chance. Puis, tu sais, je ne vais pas dédramatiser, mais ce qu'il a fait, c'est con. Mais, je veux dire, c'est une erreur de jeunesse. Là, je veux dire, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont fait ça. Qui s'il ne jouait pas au hockey, Logan Mailloux, puis s'était pas repêché par le Canadien, sûrement qu'on n'aurait jamais entendu parler. Fait que, moi, je pense qu'il a le droit à sa deuxième chance. Pour ce qui est de ce qui va jouer à Montréal, cette année, sûrement pas, parce que je pense qu'il joue encore à London,
ouais,
si je me trompe. Ouais. Fait que la saison de hockey junior a fini, ils vont sûrement aller en série, fait qu'elle va finir après le Canadien. Fait que, mais l'année prochaine, je pense que là, ils vont faire la demande peut-être au camp d'entraînement au mois d'août, septembre, pour qu'ils puissent investiguer puis qu'ils donnent l'accord ou non. Mais moi, je pense pas qu'il devrait avoir de problème, à moins que le gars ne veut pas s'aider et qu'il se fout de. Tu sais, il fait son hockey, mais ça va pas l'air d'être le cas. Ils ont dit qu'il avait de l'air de. D'avoir pris ça au sérieux. Fait que si il a pris ça au sérieux, je verrais pas pourquoi la Ligue nationale ne le laisserait pas, parce que sinon, ça dit, ben, t'as pour être deuxième chance, en fond.
Non, ben, c'est ça. Ton discours est exactement le même que Gary Bettman. Puis oui, effectivement, le Canadien, il impose une série de thérapies, là, fait qu'il suit quand même quelque chose.
Mais tu sais, je pense vraiment que probablement que Bettman va accepter son retour, mais s'il va jouer à Montréal, c'est là que je suis vraiment pas certain. À Montréal, les fans sont durs avec les joueurs d'avance. Fait qu'avec un. Tu sais, il y en a qui ne comprennent pas les deuxièmes.
Ah, je pense pas. Je pense que vraiment, Logan Mailloux a compris.
Que... Peut-être, mais j'aimerais ça. Je vais à Montréal. C'est un gars avec un excellent potentiel offensif. Fait que ça aiderait la brigade.
Déjà que Chantal Maccabée a déjà commencé une espèce de campagne de communication alentour de lui parce qu'elle le mettait avec genre Coco Phil, elle le mettait avec Suzuki pour prendre des photos, pour faire des sorties, mais il ne parle pas aux médias. Fait qu'elle a commencé à l'intégrer tranquille.
Ça, c'est correct qu'il parle pas aux médias parce que.
Oh, il sait pas. Écoute, ben, gars, Gary Bettman.
Question qui va sortir de là.
Gary Bettman, peu importe où il se présente, on lui pose des questions sur les astis de Coyote. À un moment donné, dois-tu être écœuré d'en entendre parler?
C'est les Nordiques.
les Nordiques, puis Québec, ouais. Peu importe où ils se présentent, les Nordiques de Québec, c'est tout le temps. Et ça m'amène à ma prochaine question. On va commencer avec le calendrier. Alors, selon Gary Bettman, le calendrier est bon actuellement pour alimenter les rivalités. Et là, il est pogné comme dans une double balance, qui est l'idée que quand on avait la COVID, les équipes s'affrontaient trop souvent, les mêmes équipes tout le temps. Donc, les gens étaient tannés de voir tout le temps les mêmes équipes. Ouais. Mais en échange de quoi? Les gens veulent que les rivaux jouent contre un puis contre l'autre. Donc, on a fait la structure des wildcards puis le calendrier, comme en fin de saison, on affronte plus souvent les équipes de nos divisions. On va commencer juste avec le calendrier. Est-ce que le calendrier actuellement, selon vous, est-ce qu'il y a de mieux au niveau de la promotion de la Ligue? Des fois, c'est long avant qu'une équipe affronte son premier rival, mais en fin de saison, on va l'affronter souvent. Mettons qu'on commence avec Sam.
Moi, je pense que oui. Moi, c'est le format des séries que j'aime pas. Mais ça, c'est un autre dossier.
On va en parler.
Pour le calendrier, je trouve que ce qui devrait faire. C'est parce que là, c'est à partir de Canadien-Boston, c'est la première fois qu'ils se pognent au mois de janvier. C'est pour ça que les gens disaient. Mais c'est parce que, tu sais, ils se pognent trois fois par année. Trois ou quatre dans ta division. Il y a des fois, tu as trois games, des fois, tu en as quatre. Mais là, ils vont se pogner trois fois. Fait qu'ils trouvaient ça bizarre que ce soit au mois de janvier. Mais tu sais, avant, ils se pognaient 6-7 fois par année. Fait que c'est pas le même calendrier. Moi, je trouve ça correct, mais ils devraient mettre une game contre Boston et Toronto au début de l'année. Après ça, une vers Noël pour genre, puis une vers la fin de la saison pour d'un coup qu'il y a une. Puis s'il y en a quatre, ben t'en mets une autre, t'en mets deux collés en fin de la saison pour, tu sais, pour le classement aussi. À la fin de l'année, c'est de la même division, fait que ça peut changer. Mais moi, je pense que tu devrais jouer au début. C'est comme Boston au mois de janvier, la première fois, je trouve que c'est pas correct. Mais là, c'est vrai que Gary a un bon point. Par contre, les amphithéâtres n'ont pas roulé pendant 2 ans. Il book des spectacles. La moitié des équipes de la NHL ont une équipe de la NBA avec eux. Fait que, tu sais, de monter un stand NBA, monter ça en arena, après ça, démonter pour un spectacle, tu sais, ça prend du monde, puis ça prend. Faut que ça soit sécuritaire aussi pour les joueurs. Fait que, je pense que la National fait son possible, mais il y aurait peut-être une petite amélioration au niveau des rivalités de mettre une game au début, une game au milieu, ou deux games à la fin, genre. Je pense que ça serait ça mon point, mais pour le reste, il faut au moins que chaque équipe voit Connor McDavid une fois à domicile, puis qu'une autre fois, tu aies visité Connor McDavid pour le voir contre ton équipe à la télé. Même affaire pour les autres vedettes comme Zegras. Zegras, il est à Anaheim. Tu le vois pas souvent.
Tu viens de scraper ma contre-question que j'envoyais à Andy, mais bon, en tout cas, bref, on va y aller pareil, Andy. Est-ce qu'on serait ouvert à l'idée que certaines organisations, on ne les voit pas du tout de l'année dans le but d'augmenter la visibilité de d'autres organisations? Exemple, le Canadien, 2 matchs de plus, mais on ne voit pas du tout, je ne sais pas, les Sharks, whatever.
Non.
Non!
Non, c'est dur de passer après Sam parce qu'il y a dit pas mal d'affaires. Mais.
Je m'excuse.
Non, mais honnêtement, je pense pas. Je pense que chaque équipe doit passer dans chaque amphithéâtre. Je pense que c'est ça le fun. C'est ça de pouvoir aller voir toutes les équipes possibles à Montréal. Puis même chose pour les fans, les fans de l'Arizona qui voient n'importe quelle équipe arriver dans leur amphithéâtre, que ce soit n'importe qui. Je pense que chaque équipe doit venir à Montréal.
J'ai juste une question pour vous. Là. En ce moment, on n'a pas des équipes qu'on fait juste visiter, mais qui ne viennent pas chez nous?
Non.
Toutes les équipes viennent au moins une fois?
Toutes les équipes viennent une fois, puis tu vas au moins une fois. C'est depuis 3-4 ans, même peut-être plein de plus, les 32 équipes jouent 2 fois contre par année. Non. Avant, tu jouais contre... avant, là, quand les Blue Jackets sont arrivés dans la Ligue, je me rappelle, contre les Canadiens, ça allait peut-être une fois ou 4 ans qu'ils jouaient contre. Puis là, à cette heure... Moi, c'est le règlement. Il faut que chaque équipe visite un et l'autre. Puis le baseball a fait la même affaire cette année. Toutes les équipes vont jouer contre. Puis avant, ça se faisait une fois 3 ans contre des équipes des fois. Mais ils veulent le même principe que j'ai dit. Ils veulent que des vedettes puissent aller à Toronto, aller à Boston, whatever. Puis moi, je trouve que c'est une bonne idée. Puis si tu parlais de McDavid, mais tu sais, il y a peut-être du monde qui veut le voir Cole Caulfield jouer aussi. Là. Si ça reste que c'est un phénomène, là. C'est un jeune joueur qui score des buts. Puis tu sais, lui, il vient du Wisconsin. Fait, quand il joue à Chicago, sa famille va le voir. Mais si tu enlèves sa game à Chicago, sa famille, Wisconsin, c'est quand même pas grande équipe à part Chicago proche. Fait que tu sais, il faut que tu penses à ça, je pense, dans l'équation.
Je pense pas trop loin.
Ouais.
OK. Mais t'apportes quand même un point qui est un point intéressant, là, l'histoire des joueurs vedettes qui peuvent se présenter au moins une fois un peu partout. Là. Puis tu sais, le Canadien qui visite des équipes, là, c'est très bon pour certaines équipes. Je pense, ben, ouais. Je pense oui aux Coyotes, mais les Panthers, entre autres, les Sabres de Buffalo, ça l'amène des billets. Là, t'sais. Fait que c'est bien d'avoir des grosses équipes des fois qui viennent te visiter. Ouais. Dans une conversation privée, on avait parlé, entre autres, oui, du format des séries éliminatoires, l'idée du wild card. Pour moi, les rivalités, c'est vraiment mon argument premier pour l'intérêt de ramener les Nordiques de Québec. Mais vous êtes ni un ni l'autre satisfait par l'idée des wildcards. Vous voulez avoir le 1 et le 8. Andy, on va commencer avec toi. C'est quoi ton argument pour revenir avec cette vieille formule?
Ben moi, l'argument est vraiment de finir avec les meilleures équipes. Commencer avec des duels surprenants. Tu sais, la huitième qui joue contre la première, ça peut changer de bord. Là. La huitième peut battre la première. C'est ça que ça fait des bons duels. En premier, ça fait des bons duels. Puis à la fin, c'est les meilleurs duels. Les meilleures équipes s'affrontent. Moi, c'est ça l'argument. C'est ça qui était le fun à ce moment-là. Puis je suis pas mal sûr que c'est ça que Sam pense aussi.
Ben, on s'entend quand tu dis les meilleurs, pas nécessairement. Des fois, c'est la huitième
qui commence à finale. Ouais, mais tu sais, dans... Ouais.
OK, ben, ouais, c'est bon. OK, Sam, vas-y. Toi, pourquoi est-ce que tu argumentes on retourne avec le 1-8?
Ben, techniquement, si tu fais une saison, c'est pour que les équipes qui sont bonnes aient un adversaire moins bon techniquement en série. Parce que c'est pour ça que tu joues une saison. C'est pour classer les équipes. Le meilleur exemple, on l'a devant nos yeux. Toronto sont deuxième au classement général de la Ligue nationale présentement. Ou troisième, peut-être avec les Hurricanes, c'est peut-être une égalité avec ça. Mais en tout cas, ils pogneraient Tampa Bay en première ronde des séries. Alors que techniquement. Techniquement, il devrait pogner Pittsburgh ou Washington, l'équipe wildcard. Ça change la donne carrément. Puis là, je veux pas excuser les Leafs, mais l'année passée aussi, ils ont encore pogné Tampa Bay. Puis techniquement, avec le classement 1-8, 2-7, 3-6, ils pognaient pas Tampa Bay. Je veux dire, pogner Tampa Bay en première ronde, c'est pas un luxe. Puis je veux dire, il n'y a pas de rivalité plus qu'avec une autre équipe, peut-être Toronto. Et je trouve que c'est désavantageux pour des équipes. Mais Gary trouve que c'est bon. Il trouve que c'est bon, mais. Je veux dire, le format, c'est 1-8-2-7, c'est parfait. Puis à la fin de la. C'est parce que là, t'as des meilleurs duels comme Tampa Bay Toronto qui se pognent en partance. Hey, c'est le fun en première ronde. Mais en finale de l'Est, là, on s'est déjà ramassé avec Caroline contre Islanders. Je peux te dire que je pouvais m'endormir en troisième période. Là. Fait que. Non, mais c'est vrai, c'est ça que ça donne. Ouais. Les Islanders avaient surpris, avaient battu les Pingouins, je pense, c'est tout. Puis, ben oui, ça a fini en 5, je pense. Là. Fait que.
Hey, mais là, ça me permet de on sort un peu du sujet, un quiz. Actuellement, les Maple Leafs de Toronto ne sont ni deuxième ni troisième, mais bien quatrième. Devant eux, il y a les Bruins de Boston, les Hurricanes de la Caroline. Mais qui est la troisième équipe selon vous?
C'est les Devils de New Jersey.
Oh! Sale rat! C'est désolé. Pas moi! Hey, man, j'ai zéro vu venir quand j'ai vu ça. J'ai fait crème.
On en a parlé en premier.
Comment de points? Comment de points?
66, peut-être à 66. C'est genre les Hurricanes à 66, mais 46 matchs de jouer. Les Devils, 66, 47 matchs de jouer. Puis les Leafs, 66, 48 matchs.
OK, fait que sont égales.
Ils sont égales en points, mais pas en nombre de matchs joués.
Non, c'est ça. Je savais qu'ils étaient pas mal égales. C'est pour ça que. Mais dans le fond, ils sont comme deuxième dans le national.
Ouais, égalité. Ouais, en effet. All right. Ben, moi, je vais y aller. Pourquoi est-ce que j'aime bien les formats de wildcard? Puis je suis assez d'accord avec vous. Quand le Canadien s'est ramassé en finale, on s'est fait laver quelque chose de rare. Puis ça, ben, je pense que le format de wildcard a été en grande partie.
Ben non, mais ça, c'est à cause de la COVID. Ouais, cette division canadienne après ça.
Exact.
Fait que c'est pareil. Le Canadien avait pas qu'il n'y avait pas rapport là, mais techniquement, s'il avait pogné une équipe forte en premier, il serait sûrement sorti.
Prends en considération, au lieu de dire division canadienne, ça serait division pacifique cette année. C'était une division qui était faible, puis il y a une équipe qui est sortie de ça. Puis là, Gary Bettman, lui, ce qu'il amène comme point, il dit actuellement, la LNH, puis là, attachez vos bobettes, il dit, selon lui, c'est la ligue professionnelle avec le plus de compétitivité. En tout cas, les équipes sont les plus égales. Comment on dit ça déjà?
La parité.
Parité, avec la plus grande parité qui existe. Est-ce que, selon vous, ça peut justifier qu'on donne des chances à peu près équitables à toutes les équipes dans un wild card, le fait qu'on est si paritaire? Parce que dites-vous bien une chose, l'équipe qui rentre huitième, des fois, n'est pas si loin que l'équipe qui est troisième. Ouais.
Mais je pense que ce serait la même chose avec le 1-8. Les équipes, je suis d'accord que la parité dans la Ligue nationale est très bonne, mais avec les wild cards ou le 1-8, je pense que ce serait... plus ou moins.
Mais, c'est vrai, ça.
Tu sais, comme là, si tu prends, mis à part les Bruins, là, okay, qui eux autres sont classes à part, mais après ça, tu tombes à 66, 66, 66, 64, 63, 61, 60, 60. Fait que c'est relativement proche, là. C'est pas si dramatique que ça. Les Bruins sont classes à part, mais sinon, ça peut donner des bonnes séries du début à la fin. Puis en plus, on mise sur les rivalités parce que les mêmes équipes s'affrontent souvent, dont entre autres, Leafs et Tampa Bay.
Mais je suis d'accord avec lui pour le fait que la Ligue nationale, c'est une des équipes avec le plus de parité. Parce que c'est vrai que tout le monde peut battre tout le monde. Les Canadiens ont battu Toronto. Ben, tout, les Canadiens battent tout le temps Toronto, mais ils ont failli battre Boston.
Mm-hmm.
Puis techniquement, Boston, c'est vraiment une classe à part. Puis quand je regarde les autres sports comme la NBA, c'est pas vrai que toutes les équipes peuvent battre tout le monde.
Non.
C'est pas vrai que la pire équipe va battre la meilleure. Fait que je suis d'accord là-dessus. Mais ça reste que c'est pas un point, un argument valable pour moi pour mettre des wildcards. Mettre Toronto dans le moment round pour moi. J'aimerais bien mieux les. Parce qu'ils vont sûrement se pogner en troisième round. Fait que la rivalité va se faire là au pire. Là, moi, t'as bien plus de chances de créer une rivalité quand t'es en demi-finale de l'Est ou en demi-finale de l'Ouest qu'en première ronde. Ottawa-Montréal, ils se sont créés une rivalité pendant pendant que les séries étaient 1 contre 8, 2 contre 7. Ils sont pognés comme deux fois de suite en série. Puis c'est une rivalité qui n'avait pas de temps. Là.
J'entends Ottawa, deux fois de suite.
C'est-tu de suite?
Même à ça, Toronto, puis mettons les Bruins et les Canadiens qui sont pognés comme en 5-6 ans là, dans les,
ouais,
les
années, des 2000, années 2010.
Ils se pognaient contre. Ouais. Hey, écoute, à la fin, là, ils voulaient s'arracher à la face, les gars.
Ben oui, mais
il n'y avait pas de wild card à ce temps-là.
Non, puis, et la structure actuelle favorise ce genre de choses-là. Parce que tu n'as pas besoin de te rendre en finale de l'Est pour affronter régulièrement les mêmes équipes.
Je comprends, mais on en a déjà créé des rivalités sans ça. Puis c'est justement l'année que l'Arcelor était parti en civière. Là, ça, c'était contre Ottawa. Là, ces années-là. Là,
ouais, okay, mais...
Ottawa, il n'y avait pas de rivalité avec Montréal avant tant que ça, là, même s'il était proche. Ces séries-là, ça a commencé la rivalité avec Eric Greiba, je me rappelle. Puis le format de série n'était même pas lui. Fait que moi, je me dis, ça n'a aucun rapport, Gary. T'es dans le champ là-dessus.
OK. Est-ce que tu as un mot de la fin, Andy? Moi, je suis pas d'accord, mais. Est-ce que tu as un mot de la fin, Andy, là-dessus?
Je peux pas dire que je suis en désaccord avec Sam. Tu sais, les rivalités, ils ont été créées puis ils ont été nourries avec l'ancien format. Tu sais, les rivalités que Gary Bettman essaye de faire sont déjà faites. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Ah ben moi, le point que je vais vous amener, c'est que c'est pas toutes les équipes qui ont des rivalités, genre Montréal-Boston. Là, c'est...
Mais tu sais, Tampa Bay et Columbus sont pas dans la même division. Puis ils sont pognés deux fois de suite en série, puis ça a créé une rivalité à cette heure. Tu sais, la fois qu'ils ont sorti en 4, après ça, Tampa Bay pogne l'année d'après, ils sortent. Ça a créé une rivalité naturelle, puis c'est pas grave, c'est pas dans la même division. Mais anyway, ils jouent le même nombre de matchs en saison, fait que je trouve que la rivalité peut être aussi bonne pour... c'est le fun d'en créer aussi des rivalités, pas tout le temps entretenir les mêmes. Fait que plus que t'en as, plus que t'as la possibilité d'en avoir, tu sais. Je trouve que c'est mieux de même. En tout cas, ça c'est mon opinion. Mais tu sais, les rivalités, ça se crée comme Boston-Toronto, c'est parce que. Puis à Montréal, ça fait des années qu'ils jouent contre des équipes originales. Mais des équipes qui ne s'aiment pas, c'est, mettons, des équipes qui sont proches, comme les Islanders, Rangers, The Devils, Columbus, Pittsburgh. T'sais. C'est des rivalités naturelles avec la distance. Mais sinon, j'aime bien mieux une rivalité qui se crée naturellement que, on va mettre des wildcards pour forcer les rivalités. Tu sais, moi, j'aimerais mieux en créer des rivalités que. Genre essayer de déforcer. Je sais pas si vous comprenez. Mais t'as droit à ton opinion, Yves. C'est une... T'as des bons points, toi, là. T'as des bons points. Mais moi, personnellement, j'adorais le 1-8-2-7. Puis je trouve que ça désavantage l'équipe. Que, comme Toronto, je trouve qu'ils sont désavantagés s'ils finissent deuxième puis qu'ils manquent Tampa Bay. Je trouve que c'est plate. Mais c'est sûr que Toronto, vous les avez peut-être pas dans votre cœur. Ça vous fait plaisir de les voir sortir en première ronde. Mais moi, je les aime bien.
Mais tu sais, moi, là, de voir la bataille de l'Alberta, je suis content.
Ah, c'est sûr.
Si les Canucks reviennent en série, qui jouent justement contre les Flames, ça serait le fun. Puis on est dans la même division.
C'est sûr. T'as des bons points.
Sinon, je veux vous entendre aussi sur autre chose. Là. Il a mentionné la possibilité, parce que le Canadien ne fait généralement pas partie beaucoup là, des matchs internationaux. Là, on a parlé de la possibilité que le Canadien participe à un match international. J'ai entendu en quelque part peut-être Paris, je ne sais pas trop. Est-ce que pour vous, une équipe comme le Canadien de Montréal a intérêt à aller à l'international? Ou est-ce que c'est plus pour la vision de la Ligue?
Ben oui.
Allez-y.
J'ai trouvé ça génial, moi, quand la Ligue nationale a commencé. Ben, ça a commencé avec la NFL, ils sont allés à Londres, ils sont rendus en Allemagne et en France. Et là, la Ligue nationale qui a fait Suède, je pense, là, cette année, c'est en Finlande. C'était les Blue Jackets contre l'Avalanche. les Canadiens en France, ça serait plein. Premièrement, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de monde qui irait voir ça parce qu'il y a beaucoup de Français qui savent c'est quoi le Canadien de Montréal. Fait que s'il y a une équipe qui peut bien les rassembler, ça serait ça. Avec une autre équipe, je sais pas, peu importe l'équipe que tu envoies, ben ça va être une équipe qui a un Français dans l'équipe, c'est sûr, là, techniquement, pour avoir. Peut-être les Blue Jackets avec Texier, mais moi, je trouve que c'est magique. Puis c'est aussi bon pour la Ligue nationale. Le Canadien, je pense qu'il s'est reconnu mondialement. Mais pour la Ligue nationale, vendre un produit en France, le hockey n'est pas tant populaire là-bas, ça peut juste aider. Puis la Ligue nationale va vendre des gilets, va faire de l'argent. Fait que c'est jamais une mauvaise idée d'aller ailleurs. Je pense que tu peux même aller en Chine, ça va bien marcher.
C'est beau, l'état t'es audacieux là. Andy, de ton côté, moi je vais relancer, il amène l'idée des gilets, mais je me souviens avoir déjà vu dans The Voice en Australie un gars qui portait un chandail de Carey Price. Fait que j'étais surpris de voir que le Canadien était connu jusqu'à là-bas. Est-ce que, tu sais, comme là, t'envoies littéralement l'équipe la plus mythique de la Ligue, tu l'envoies à Paris, en termes de bonne presse, on a quelque chose d'intéressant pour la Ligue là.
Ben oui, totalement. Puis, tu sais, comme ça m'apporte, là, t'as l'équipe, comme. C'est l'équipe avec le plus d'histoire à Paris, l'équipe québécoise que beaucoup de Français connaissent à Paris, qui sont les Français. Fait que tu sais, c'est sûr que, comme Sam a dit, le stade va être plein. Puis c'est sûr qu'en un Français comme Texier, l'équipe des Blue Jackets, ça serait le fun. Mais c'est sûr que c'est bon pour la Ligue. Peut-être un jour, on va avoir une équipe en Europe. On le sait pas. Je pense que c'est peut-être pour ça que ça s'en vient. Je serais pas... Ça serait le fun. Le marché se développe, mais il faudrait rajouter des matchs. Là.
Le voyagement serait quelque chose.
Bon, mais comme Sam a dit, c'est loin d'être une mauvaise idée de développer puis d'envoyer des gens se faire connaître.
Mais moi, je pense que c'est vraiment plus pour le point de vue marketing puis faire de la business. Parce que la NFL le fait depuis une dizaine d'années à Londres. Puis là, ils sont rendus même en Allemagne, puis comme j'ai dit tantôt. Mais ça, même la NFL, ils aimeraient ça faire une division, mais avec le décalage horaire, les blessures et tout, faire de l'avion de même, ça serait beaucoup trop dispendieux pour les équipes en Europe, beaucoup trop de voyagement, beaucoup trop de décalage horaire. Parce que tu sais, juste quand les Canadiens vont à San Jose, on dit « Hey, il y a du décalage », mais là c'est 3 heures, là, ça serait 6-7 heures, hein. Ça serait impossible. Mais c'est sûr qu'ils vont envoyer une équipe avec un Français en France. Cette année, c'était Jarmo Kekalainen, Patrick Laine contre Lartturi Lekkonen, Mikko Rantanen. T'sais, ils font par exprès pour envoyer des gars. T'sais, Laine, c'est une vedette là-bas. Là. Puis Lekkonen, ça lui a rendu un dieu. Mais c'est...
il est bon.
Mais c'est sûr qu'ils vont essayer de faire de quoi. Peut-être qu'il y a Edouard Bellemare. Mais j'adorerais voir ça. Puis ça serait vraiment le fun. Ça serait vraiment le fun que les Canadiens aient en France, à Paris. Je ne sais pas s'ils ont une aréna qui est quand même pas si pire. Je connais pas les arénas là-bas. Mais ça serait vraiment le fun.
Je peux te dire au minimum qu'ils ont une ligue, là, mais je ne sais pas.
Ouais, je ne sais pas, mais les arénas, me semble, en France, ne sont pas si grosses. Ils vont faire ça au Stade de France, s'il vous
plaît. Ben, ouais, non, mais écoute, rendu là, je me dis, on a déjà mis une patinoire à San Jose en Californie. On est capable de le mettre dans le Stade de France. Mais je pense pas qu'on va remplir le Stade de France parce qu'on parle de 100 000 personnes.
Ah, ouais, c'est pour ça que je t'ai dit ça, mais je pense que ce serait. Il devrait commencer à San Arena, puis après ça, il passera au Stade de France.
On va commencer tranquillement. Je pense que, tu sais, c'est exemple, on joue beaucoup avec l'image de la ville de Vegas, on joue beaucoup avec l'image de la ville de Seattle. Fait que là, si on va à Paris, là, ça devient exotique, cette affaire-là.
Ça va looker good.
Ah ouais.
T'imagines. Deux matchs, ça va être deux matchs en plus, sûrement, contre la même équipe, là. Fait que, je veux dire, à cette heure qu'il en a parlé, il n'y a pas le choix de le faire.
Non,
je pense que là, il a mis des attentes.
Paris, là, c'est pas dans la conférence que j'ai entendu ça. Là. J'ai lu ça sur les réseaux sociaux, mais lui a mentionné que le Canadien avait des intérêts à aller jouer à l'international.
Ouais, j'ai pas entendu ça à la conférence, mais j'ai vu que Gary Bettman envisage la France et Paris pour une future. Puis si la France, ça n'a pas choisi le Canadien qui soit là.
Mais là, je te parle rapidement. Là, j'ai eu plusieurs amis français qui aimaient les sports nord-américains, entre autres la NFL puis le hockey. Puis le hockey, souvent, ils voyaient le Canadien, les Bruins puis les Rangers. Puis ils me disaient que le soir, ils pouvaient écouter des fois les équipes qui ont un gros décalage qui sont en Californie. Fait qu'ils connaissaient moins les équipes du centre, mais ils connaissaient les équipes des extrêmes. Genre. En tout cas, bref, ça, c'est une parenthèse. Là, on va y aller avec le... tanking. Gary Bettman a été un peu plus clair, il l'a dit très clairement, il n'y en a pas de tanking, on a mis une loterie pour ça. Mais on ne se le cachera pas. Quand tu liquides une équipe comme les Hawks l'ont fait, c'est parce que tu as quand même une certaine intention puis c'est certainement pas de finir en haut. Fait que Andy, tanking, pas tanking, on y va quoi?
Comme je pense qu'on avait déjà parlé avec Sam, mais je pense pas que ça existe parce que les joueurs, les entraîneurs sont trop fiers, ils veulent gagner, sont là pour gagner, sont payés pour gagner. Je pense pas que ça existe de vouloir perdre et de faire exprès de perdre. Sauf que, comme les Hawks ont fait, ils ont liquidé plein de jeunes. Là, il y a Patrick Kane et il y a Jonathan Tate qui vont partir à la date limite. Ils font pas exprès de pas gagner. Mais c'est pas loin. Mais je pense pas qu'ils se sont levés et qu'ils disent que nous autres, on veut tanker, on veut finir dernier. Je pense qu'ils veulent entrer en reconstruction. Ils ont échangé énormément de gars contre pas rien, mais comme pas des gars qui peuvent t'aider à gagner. Mais c'est ça. Mais je pense pas que ça existe que les gars comme hey, on va perdre. Assoir les boys, on perd puis on fait ça.
Ah, je peux te dire que c'est sûr qu'il y a de l'orgueil. Parce que quand je regarde mon équipe des Coyotes qui se bat à chaque soir, je fais comme, guys, si seulement vous pourriez dropper, esti.
C'est bon,
ça arrive pas, ça a l'air, ils se battent tout le temps, les tabarouettes. Effectivement, Gary Bettman a vu cet argument-là. Il dit c'est de manquer de respect au professionnalisme, autant des entraîneurs que des joueurs, parce que l'autre, ils se présentent pour gagner, ils se présentent pas là pour justement perdre puis avoir un meilleur choix au repêchage. Mais tu as toujours la possibilité de genre prendre des blessures, étirer leur établissement, puis bon, bref. On peut toujours jouer dans cette game-là. Toi, de ton côté, Sam, je pense que tu es un peu plus clair. Il n'y a pas de tanking qui existe. Puis on se rappelle, hein, celui qui finit dernier, il y a 75% des chances de ne pas choisir premier.
Non, c'est ça.
Mais pas
75. Mais parce que quand on avait parlé, j'avais comme sorti la phrase qui disait « Ça dépend, c'est quoi du tanking pour toi? » Parce que du tanking, c'est d'échanger ses joueurs puis de connaître une mauvaise saison. Si c'est ça du tanking, ben ça existe. Mais moi, du tanking, dans mes mots, c'est « OK, les gars, il faut perdre. » Faut genre, mais c'est pour ça que j'ai dit que ça n'existait pas parce que avec les contrats aujourd'hui, tu sais, celui qui a des contrats d'un an, les autres, ils veulent se faire valoir pour en avoir un meilleur.
Ouais,
ils ne peuvent pas dire oh, je vais faire un revirement à soi, tu sais. Ça ne marche pas de même. Mais oui, les Hawks, ils veulent repêcher haut. On va dire ça comme ça. Parce que c'est vrai que ce qu'Yves dit, tu as juste 25% de. Tu finis dernier, tu as juste 25% de choisir premier, 75% de ne pas finir. Mais tu es assuré de finir dans le top 3. Parce que tu ne peux pas descendre plus que 3 positions. Fait que. Chicago, savent.
Si t'es premier, t'es assuré d'être dans le top 3.
Ouais, si t'es deuxième, tu peux être quatrième.
Tu peux être quatrième,
ouais. C'est ça. Ouais, tu descends de même. Fait que, tu sais, en même temps, tu finis dernier, tu dis je vais être dans le top 3. Fait que c'est pas si pire. Mais c'est rare que l'équipe, tu sais, dans les dernières années, la loterie, là, c'est rare que c'est la dernière équipe qui finit premier. Là. Alors, les gens au sort, puis qui étaient derniers, qu'eux autres pensaient aller chercher Connor McDavid, finalement, les Oilers, ils ont ce qu'ils peuvent. Tu sais, souvent, ça joue entre les trois équipes, là, celui qui change. Là. C'est souvent là-dedans que ça se joue. Mais.
Jusqu'à temps qu'arrivent les Devils.
Ouais, puis les Flyers l'année d'après, puis les Rangers l'année d'après.
OK. Alors, les boys, comme dernier sujet, je vous lance la possibilité de me pitcher des perches à n'en plus finir parce que, bien évidemment, on est à Montréal. Il y a eu des questions sur les Coyotes de l'Arizona. D'entrée de jeu, mon Gary Bettman, il a dit ils ont fait sold out depuis qu'ils sont arrivés à Tempe. C'est une belle place. Il y a de la paix là-bas. Vous avez le droit de me shooter à marque que vous voulez. C'est libre à vous.
Ben, hier, il n'était pas sold out.
Pourquoi?
Griff, il y avait des bancs vides, là, mon homme.
Oh! Wow! Sold out, ça veut dire vendu. Ça veut pas dire présent.
OK, ben, il faut être épais en esti, acheter un billet pour se présenter.
Mais hier, si je me rappelle bien, c'était une défaite de genre 5-2. Là. C'est ça?
Ouais, 5-2. Contre les Ducks, ouch.
Ouais, c'est ça, c'était 5-2. Puis c'était pas, ça n'a pas été un match qui était vargeux parce qu'en première période, déjà, les Ducks dominaient complètement les Coyotes. Puis, tu sais, c'était pas. En tout cas, c'était pas nécessairement en faveur. J'ai vu un manifestant qui voulait pas avoir les Coyotes à TMP. J'ai bien dit un manifestant.
OK, parce que les autres. C'était
la même histoire. Il y avait un gars avec sa pancarte. Puis il était comme, on veut pas avoir ça à TMP. Gary Bettman, il est comme, get out of here.
C'est sûr.
Bref. Mais sinon, il aime le projet qu'il y a. Puis là, pour l'instant, il n'y aura pas de nouvelles avant le mois de mai. Fait que bref, on ne peut pas aller plus loin que ça. Mais Gary Bettman est assez confiant qu'on va réussir le projet à Tempe.
Est-ce y a-t-il une date ou un approximatif de quand que tout ça va être prêt?
Ben, la prochaine réunion, je pense, c'est au mois de mai, justement. C'est pour ça qu'il disait ça.
Ça, c'est le référendum. Le référendum à la population va être au mois de mai l'année prochaine. Okay. À partir du moment où ils ont un oui, là, ils commencent à. Parce qu'il faut qu'ils commencent par assainir le sol. C'est un ancien dépotoir où ils vont se bâtir. Fait que là, ils vont enlever la terre, ils vont assainir le sol. Après, je le savais! Écoute! Ils ont une conscience environnementale, OK?
Les Coyotes avec les vidanges.
Ils vont tasser évidence ailleurs. Là.
Exactement. Exactement.
Ils vont tasser. Ils se mettent direct sur le tas de poubelle, gros ciment. Tain.
Et voilà. Mais c'est ça, tu sais, ils vont commencer par assainir le sol, puis après ça, ils vont pouvoir bâtir par-dessus. Puis là, il y a des complications en lien avec les tours qui vont être utilisées, l'aéroport qui est à proximité. En tout cas, bref, mois de mai, c'est le référendum, puis après ça, ça va commencer, mais c'est dans comme 3 ans, je pense. Fait que c'est pas tout de suite.
Hey, c'est pas à veille, hein?
C'est pas à veille, non, effectivement, mais c'est un modèle d'affaires qui va être plus gros que ce qui est fait jusqu'à date, parce que là, on va parler non seulement de condos, mais on va parler aussi de business comme des casinos, des restaurants, des hôtels qui vont appartenir à l'équipe qui va générer des revenus.
Mais là, s'ils font ça, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs depuis plusieurs années que les Coyotes déménagent. Là. Mais si ce projet-là est engendré, tu ne peux plus déménager ça. Là.
Non. Et l'échec que ça serait pour la Ligue, ça
tu
serait.
Plus, tu peux plus. Si tu acceptes ça, puis tout est fait, cette équipe-là reste là pendant 50 ans.
Oui, je pense que c'est 30 ans.
Gary, Gary ne veut pas déménager parce que il y aurait pas mal 50 choses. Mais s'ils déménagent, ils n'iront pas à Québec, je te garantis.
Mais c'est ça. Parce que
les voilà, Houston,
il serait absolument catastrophique.
Ouais, ça serait horrible. C'est parce que il a tellement été identifié au succès de cette équipe-là que ça serait sa fin à lui. Là, s'il fait. Mais si jamais le référendum ne passe pas, c'est clair qu'il déménage. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Ouais. All right. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Là, on a fait le tour de toute la conférence de presse. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Non.
Dieu, s'il vous plaît, Connor Bedard avec les jackets. Merci.
OK, ben écoute, merci Sam, bonne soirée.
Bonne soirée.
Andy, est-ce qu'on y va avec Dieu, s'il te plaît, Connor Bedard pour Montréal?
Moi, ça va être Dieu, pas Connor Bedard à Columbus, parce qu'on va en entendre parler pendant 5 ans avec Sam. Merci.
Merci beaucoup, Andy. Écoute, je te souhaite une belle soirée et on s'en reparle très prochainement. Alors, pour vous à la maison, je tiens à vous rappeler que cet épisode-là va être disponible en rediffusion en fin de semaine sur Spotify ainsi que sur YouTube. Et on n'oublie pas d'écouter, bien entendu, la notice des sportifs à tous les mardis midi animée par Loric Salvaille ainsi que le coin des rumeurs à tous les vendredis. On est disponible sur les différentes applications, soit sur TikTok, sur Spotify, sur YouTube, sur Facebook. Bref, on est un peu partout. Suivez-nous, puis parlez-nous. D'ici là, je vous dis un très grand merci d'avoir assisté à cet épisode et on se revoit très bientôt. Bye bye. We'll be right back.